Deuxième épisode. La lampe juive. Chapitre 1. Herlock Sholmès et Wilson étaient assis à droite et à gauche de la grande cheminée, les pieds allongés vers un confortable feu de coke. La pipe de Sholmès, une courte bruyère à virole d'argent, s'éteignit. Il en vida les cendres, laboura de nouveau, l'alluma, ramena sur ses genoux les pans de sa robe de chambre et sortit de sa pipe de longues bouffées qu'il s'ingéniait à lancer au plafond en petits anneaux de fumée. Wilson le regardait. Il le regardait comme le chien couché en cercle sur le tapis du foyer regarde son maître, avec des yeux ronds, sans battement de paupières, des yeux qui n'ont d'autre espoir que de refléter le geste attendu. Le maître allait-il rompre le silence? Allait-il lui révéler le secret de sa songerie actuelle et l'admettre dans le royaume de la méditation dont il semblait à Wilson que l'entrée lui était interdite? Sholmès se taisait. Wilson risqua.
« Les temps sont calmes. Pas une affaire à nous mettre sous la dent. »
Sholmès se tut de plus en plus violemment, mais ses anneaux de fumée étaient de mieux en mieux réussis. Et tout autre que Wilson eût observé qu'il en tirait cette profonde satisfaction que nous donnent ces menus succès d'amour-propre aux heures où le cerveau est complètement vide de pensée. Wilson, découragé, se leva et s'approcha de la fenêtre. La triste rue s'étendait entre les façades mornes des maisons, sous un ciel noir d'où tombait une pluie méchante et rageuse. Un cab passa. Un autre cab. Wilson en inscrivit les numéros sur son calepin. Sait-on jamais?
« Tiens !»
s'écria-t-il.
« Le facteur !»
L'homme entra, conduit par le domestique.
« Deux lettres recommandées, monsieur. Si vous voulez signer. »
Sholmès signa le registre, accompagna l'homme jusqu'à la porte et revint tout en décachetant l'une des lettres.
« Vous avez l'air tout heureux !»
nota Wilson au bout d'un instant.
« Cette lettre contient une proposition fort intéressante. Vous qui réclamiez une affaire, en voici une. Lisez. »
Wilson lut.
« Monsieur, je viens vous demander le secours de votre expérience. J'ai été victime d'un vol important et les recherches effectuées jusqu'ici ne semblent pas devoir aboutir. Je vous envoie par ce courrier un certain nombre de journaux qui vous renseigneront sur cette affaire. Et s'il vous agrée de la poursuivre, je mets mon notaire à votre disposition et vous prie d'inscrire sur le chèque ci-inclus, signé de moi, la somme qu'il vous plaira de fixer pour vos frais de déplacement. Veuillez avoir l'obligeance de me télégraphier votre réponse et croyez, monsieur, à l'assurance de mes sentiments de haute considération. Baron Victor d'Imbleval, 18 rue Murillo.
Hé, fit Sholmès. Voilà qui s'annonce à merveille. Un petit voyage à Paris. Ma foi, pourquoi pas? Depuis mon fameux duel avec Arsène Lupin, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Je ne serais pas fâché de voir la capitale du monde dans des conditions un peu plus tranquilles. »
Il déchira le chèque en quatre morceaux, et tandis que Wilson, dont le bras n'avait pas recouvré son ancienne souplesse, prononçait contre Paris des mots amers, il ouvrit la seconde enveloppe. Tout de suite, un mouvement d'irritation lui échappa. Un pli barra son front pendant toute la lecture, et, froissant le papier, il en fit une boule qu'il jeta violemment sur le parquet.
« Quoi ? Qu'y a-t-il ? »
s'écria Wilson, effaré. Il ramassa la boule, la déplia, et lut avec une stupeur croissante
« Mon cher maître !»
Vous savez l'admiration que j'ai pour vous
et l'intérêt que je prends à votre renommée.
Eh bien, croyez-moi, ne vous occupez point de l'affaire à laquelle on vous sollicite de concourir. Votre intervention causerait beaucoup de mal. Tous vos efforts n'amèneraient qu'un résultat pitoyable. Et vous seriez obligé de faire publiquement l'aveu de votre échec. Profondément désireux de vous épargner une telle humiliation, je vous conjure, au nom de l'amitié qui nous unit, de rester bien tranquillement au coin de votre feu. Mais bon souvenir à Monsieur Wilson, et pour vous, mon cher maître, le respectueux hommage de votre dévoué
Arsène Lupin. Arsène Lupin ?
Répéta Wilson, confondu. Sholmès se mit à frapper la table à coups de poing.
Ah, mais il commence à m'embêter, cet animal-là. Il se moque de moi comme d'un gamin. L'aveu public de mon échec. Ne l'ai-je pas contraint à rendre le diamant bleu ?
Il a peur,
insinua Wilson.
Vous dites des bêtises. Arsène Lupin n'a jamais peur. Et la preuve, c'est qu'il me provoque.
Mais comment a-t-il connaissance de la lettre que nous envoie le baron d'Imbleval ?
Qu'est-ce que j'en sais ? Vous me posez des questions stupides, mon cher.
Je pensais, je m'imaginais.
Quoi ? Que je suis sorcier ?
Non, mais je vous ai vu faire de tels prodiges.
Personne ne fait de prodiges. Moi, pas plus qu'un autre. Je réfléchis, je déduis, je conclus, mais je ne devine pas. Il n'y a que les imbéciles qui devinent.
Wilson prit l'attitude modeste d'un chien battu et s'efforça, afin de n'être pas un imbécile, de ne point deviner pourquoi Sholmès arpentait la chambre à grands pas irrités. Mais Sholmès ayant sonné son domestique et lui ayant commandé sa valise, Wilson se crut en droit, puisqu'il y avait là un fait matériel, de réfléchir, de déduire et de conclure que le maître partait en voyage. La même opération d'esprit lui permit d'affirmer, en homme qui ne craint pas l'erreur,
« Herlock, vous allez à Paris !»«
Possible. »«
Et vous y allez plus encore pour répondre à la provocation de Lupin que pour obliger le baron d'Imbleval ?»«
Possible. »«
Herlock, je vous accompagne. » »«
Ah, oh, vieil ami !» s'écria Sholmès en interrompant sa promenade. « Vous n'avez donc pas peur que votre bras gauche ne partage le sort de votre bras droit ?»«
Que peut-il m'arriver ? Vous serez là !»«
À la bonne heure, vous êtes un gaillard. Et nous allons montrer à ce monsieur qu'il a peut-être tort de nous jeter le gant avec tant d'effronterie. Vite, Wilson, et rendez-vous au premier train. »«
Sans attendre les journaux dont le baron vous annonce l'envoi ?»
À quoi bon ? J'expédie un télégramme ?
Inutile. Arsène Lupin connaîtrait mon arrivée. Je n'y tiens pas.
Cette fois, Wilson, il faut jouer serré.
L'après-midi, les deux amis s'embarquaient à Douvres. La traversée fut excellente. Dans le rapide de Calais à Paris, Sholmès s'offrit 3 heures du sommeil le plus profond, tandis que Wilson faisait bonne garde à la porte du compartiment et méditait. L'œil vague. Sholmès s'éveilla heureux et dispos. La perspective d'un nouveau duel avec Arsène Lupin le ravissait. Il se frotta les mains de l'air satisfait d'un homme qui se prépare à goûter des joies abondantes.
« Enfin !» s'exclama Wilson. « On va se dégoudir !»
Et il se frotta les mains du même air satisfait. En gare, Sholmès prit les plaides. Et suivi de Wilson qui portait les valises, chacun son fardeau, il donna les tickets et sortit allègrement.
« Beau temps, Wilson ! Du soleil ! Paris est en fête pour nous recevoir !
Quelle foule !
Tant mieux, Wilson ! Nous ne risquons pas d'être remarqués. Personne ne nous reconnaîtra au milieu d'une telle multitude.
« Monsieur Sholmès, n'est-ce pas ?» Il s'arrêta, quelque peu interloqué. Qui diable pouvait ainsi le désigner par son nom ? Une femme se tenait à ses côtés, une jeune fille, dont la mise très simple soulignait la silhouette distinguée et dont la jolie figure avait une expression inquiète et douloureuse. Elle répéta « Vous êtes bien, monsieur Sholmès ?» Comme il se taisait, autant par désarroi que par habitude de prudence, Elle redit une troisième fois « C'est bien à Monsieur Sholmès que j'ai l'honneur de parler. »«
Que me voulez-vous »
dit-il assez bourru, croyant à une rencontre douteuse. Elle se planta devant lui.
« Écoutez-moi, monsieur, c'est très grave. Je sais que vous allez rue... »«
Que dites-vous ? » ?»«
Je sais, rue Murillo, au numéro 18. Eh bien, il ne faut pas... Non, vous ne devez pas y aller. Je vous assure que vous le regretteriez. » Si je vous dis cela, ne pensez pas que j'y ai quelque intérêt. C'est par raison, c'est en toute conscience.
Il essaya de l'écarter, elle insista.
Oh, je vous en prie, ne vous obstinez pas. Ah, si je savais comment vous convaincre. Regardez tout au fond de moi, tout au fond de mes yeux. Ils sont sincères. Ils disent la vérité.
Elle offrait ses yeux éperdument, de ses beaux yeux graves et limpides, où semble se réfléchir l'âme elle-même. Wilson hocha la tête.
« Mademoiselle a l'air bien sincère. »«
Mais oui, » implora-t-elle, « et il faut avoir confiance. »«
J'ai confiance, mademoiselle, »
répliqua Wilson.
« Ah, oh, comme je suis heureuse. Et votre amie aussi, n'est-ce pas? Je le sens, j'en suis sûr. Oh, quel bonheur, tout va s'arranger. » Ah, oh, la bonne idée que j'ai eue. Tenez, monsieur, il y a un train pour Calais dans 20 minutes. Eh bien, vous le prendrez. Vite, suivez-moi. Le chemin est de ce côté, et vous n'avez que le temps. »
Elle cherchait à l'entraîner. Sholmès lui saisit le bras et d'une voix qu'il cherchait à rendre aussi douce que possible,
« Excusez-moi, mademoiselle, de ne pouvoir accéder à votre désir. » Mais je n'abandonne jamais une tâche que j'ai entreprise.
Je vous en supplie, je vous en supplie. Ah, si vous pouviez comprendre.
Il passa outre et s'éloigna rapidement. Wilson dit à la jeune fille,
ayez bon espoir. Il ira jusqu'au bout de l'affaire. Il n'y a pas d'exemple qu'il ait encore échoué.
Et il rattrapa Sholmès en courant.
Herlock Sholmès, Arsène Lupin.
Ces mots, qui se détachaient en grosses lettres noires, les heurtèrent au premier pas. Ils s'approchèrent. Une théorie d'hommes sandwich déambulait les uns derrière les autres, portant à la main de lourdes cannes ferrées dont ils frappaient le trottoir en cadence, et sur le dos, d'énormes affiches où l'on pouvait lire
« Le match Herlock Sholmès, Arsène Lupin, arrivée du champion anglais. » Le grand détective s'attaque au mystère de la rue Murillo. Lire les détails dans l'Écho de France.
Wilson hocha la tête.
Dites donc, Herlock, nous qui nous flattions de travailler incognito, je ne serais pas étonné que la garde républicaine nous attendît rue Murillo et qu'il y eut réception officielle avec toast et champagne.
Quand vous vous mettez à avoir de l'esprit, Wilson, « vous en valez deux, »
grinça Sholmès. Il s'avança vers l'un de ses hommes avec l'intention très nette de le prendre entre ses mains puissantes et de le réduire en miettes, lui et son placard. La foule, cependant, s'attroupait autour des affiches. On plaisantait et l'on riait. Réprimant un furieux accès de rage, il dit à l'homme
« Quand vous a-t-on embauché ?»«
Ce matin. »
Vous avez commencé votre promenade?
Il y a une heure.
Mais les affiches étaient prêtes?
Adam, oui. Lorsque nous sommes venus ce matin à l'agence, elles étaient là.
Ainsi donc, Arsène Lupin avait prévu que lui, Sholmès, accepterait la bataille. Bien plus, la lettre écrite par Lupin prouvait qu'il désirait cette bataille et qu'il entrait dans ses plans de se mesurer une fois de plus avec son rival. Pourquoi? Quel motif le poussait à recommencer la lutte? Herlock eut une seconde d'hésitation. Il fallait vraiment que Lupin fût bien sûr de la victoire pour montrer tant d'insolence. Et n'était-ce pas tomber dans le piège que d'accourir ainsi au premier appel?
Allons-y, Wilson. Cocher
18 rue Murillo,
s'écria-t-il en un réveil d'énergie. et les veines gonflées, les poings serrés, comme s'il allait se livrer à un assaut de boxe, il sauta dans une voiture. La rue Murillo est bordée de luxueux hôtels particuliers, dont la façade postérieure a vue sur le parc Monceau. Une des plus belles parmi ces demeures s'élève au numéro 18. Et le baron d'Imbleval, qu'il habite avec sa femme et ses enfants, l'a meublée de la façon la plus somptueuse, en artiste et en millionnaire. Une cour d'honneur précède l'hôtel et des communs le bordent à droite et à gauche. En arrière, un jardin mêle les branches de ses arbres aux arbres du parc. Après avoir sonné, les deux Anglais franchirent la cour et furent reçus par un valet de pied qui les conduisit dans un petit salon situé sur l'autre façade. Ils s'assirent et inspectèrent d'un coup d'œil rapide les objets précieux qui encombraient ce boudoir.
« Ah, quelle jolie chose !»
murmura Wilson.
« Du goût et de la fantaisie, on peut déduire que ceux qui ont eu le loisir de dénicher ces objets sont des gens d'un certain âge. 50 ans, peut-être. »
Il n'acheva pas. La porte s'était ouverte et M. d'Imbleval entrait, suivi de sa femme.